C'est une question hyper pertinente, je trouve, parce que...
C'est fou, parce que j'ai jamais vu de ce point de vue.
Ouais.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! C'est peut-être l'épisode le plus chaotique que vous écouterez toute saison réunie, mais c'est sûrement l'un des plus vivants et spontanés. Mes invitées du jour sont sœurs, jumelles plus exactement. Elles ont 24 ans et pratiquent depuis l'âge de 6 ans la natation artistique, anciennement appelée natation synchronisée. Leurs noms, Charlotte et Laura Tremble. Après avoir fait les Jeux de Tokyo en duo, elles évoluent désormais dans l'ensemble et sont récemment devenues championnes d'Europe. Mais l'intérêt est ailleurs, dans leur complicité par exemple, littéralement démentielle. Il est possible que vous ne sachiez pas reconnaître qui est qui, et c'est pas grave, si vous écoutez ce podcast, c'est pour la sincérité et la fraîcheur de leurs propos. La manière dont elles parlent sans aucun masque, sans faux semblant, de la difficulté d'évoluer dans une discipline artistique soumise à jugement et dont le code de notation vient tout juste de changer à quelques mois des Jeux. D'être sous le joug perpétuel de la pression du corps idéal, du corps de référence, qui ne doit pas sortir d'un schéma arbitrairement établi par on ne sait pas trop qui d'ailleurs. De jongler quotidiennement entre études d'ingénieur et entraînement à très haute intensité, deux fois par jour. Elles le savent, ce sera leur dernière année. Elles sont tout aussi contentes de s'entraîner que d'envisager leur arrêt. Dans ce podcast, on parle vite, on se coupe la parole et on rit fort. On explique ce qu'est la natation artistique et en même temps, on ne comprend pas toujours. Ce podcast, c'est finalement l'incarnation du sport. Ça part dans tous les sens, mais c'est ce qu'on adore. En bref, c'est haut en couleur, comme Charlotte et Laura Tremble.
Salut Laura, salut Charlotte.
Salut.
Hello.
Comment allez-vous?
Très bien.
Super.
Et toi?
Bah ça va bien. Alors j'aime bien toujours dire un peu les backstage hein, quand même des interviews. Disons les choses, nous sommes dans un hammam. c'est pas vrai, mais presque. Parce que du coup, on est dans le studio, mais le studio qui n'a plus de climatisation, il fait très chaud, il fait 35 degrés d'or. Donc il en fait 45 à peu près à l'intérieur.
Mais au moins, il y a du soleil.
Voilà, au moins, il y a du soleil, exactement. Mais bon, je suis désolée de vous accueillir dans ces conditions, mais bon, je suis ravie. Et au moins, l'eau, j'ai envie de dire, est quelque chose que vous connaissez plutôt bien.
C'est ça. Un peu.
Je suis ravie de pouvoir vous accueillir. Et effectivement, on avait, pareil, pour donner un petit peu les backstage, on avait déjà enregistré quelque chose avant les Jeux de Tokyo,
ouais,
qui malheureusement n'avait pas pu sortir. Donc, je suis ravie qu'on puisse le faire cette fois-ci avant les Jeux de Paris.
Ouais.
Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Avec grand plaisir. On est trop contentes.
Ouais, bah, c'est trop bien. Alors, Laura, Charlotte, donc vous, votre truc, c'est la natation artistique.
Ouais.
Et non, la natation synchronisée, parce qu'il y en a encore beaucoup qui disent la natation synchronisée. C'est vrai?
Entre nous, ouais. Synchro, on s'y fait pas trop, mais bon.
C'était quoi? C'était pour être plus général, en fait, qu'ils ont changé l'appellation ou...
C'était pour se rapprocher un peu du patinage artistique. En gros, c'était un peu pour... dans l'idée de plus médiatiser notre sport, que ça touche un peu plus tout le monde.
Ouais.
Mais bon, à voir si ça marche ou si ça marche pas.
Je pense que la majeure partie des gens continuent de dire natation synchronisée.
Ouais. Parce que quand on nous demande, on dit natation artistique, ils font natation synchronisée. C'est une nouvelle épreuve au jeu.
Ouais, c'est ça. Je ne connaissais pas. Et donc, vous avez 24 ans.
Oui.
Vous êtes jumelles.
Aussi. On a le même âge, c'est bizarre.
Ah oui, ce que j'allais dire, vous avez 24 ans. Eh bien, pour une bonne raison, c'est que vous êtes nés le même jour.
Oui, ça.
Et donc, ça fait 10 ans, je crois, même plus que ça, que vous faites de la natation.
Ça fait 17 ans, je crois. J'ai compté la dernière fois. Je me sens vieille. Tu sais, quand on commence à compter en dizaines d'années, là.
Bah là, on se rapproche plus des 20 que des 10 ans.
Oh, bah arrêtez de dire ça. Surtout, vous avez 24 ans, c'est terrible. Ouais. N'écoutez pas tous les.
On a quand même fait des. On a commencé très jeune aussi, ce moment.
C'est vrai. Et c'est des sports, effectivement, qui se commencent également très jeunes.
Oui, souvent.
C'est des sports qu'on rapproche beaucoup de la gymnastique, de la gymnastique rythmique, des sports qui sont artistiques et qui se pratiquent très tôt parce que malheureusement, ça s'arrête très tôt aussi.
C'est ça. Bah, c'est clair que, en plus, c'est vrai que tout ce qui est dimension artistique, il y a beaucoup de bases à avoir et qu'on travaille tous les ans et qu'on travaille encore après 17 ans de synchro. Et plus tôt on les fait, mieux c'est. Mais c'est vrai que c'est un sport qui s'arrête assez tôt. On a une moyenne de 25 ans à peu près, je crois, dans notre sport.
Ouais, 25, 30. Il y a des pays qui arrivent à tirer jusqu'à 30, mais c'est plus des pays qui sont professionnels.
C'est vraiment rare quand même.
Bah, c'est les Italiennes, elles ont tout arrêté à 30 ans parce qu'elles sont avec l'armée, donc elles sont pro.
Ouais.
Mais honnêtement, dans les autres pays, c'est vers 25, 27, un truc comme ça.
Et pour le coup, donc vous avez 24 ans.
Ouais.
Et c'est votre dernière année.
C'est ça.
Vous dites ça avec de la joie.
Bah oui, parce qu'on a préparé notre après-carrière depuis un petit moment et c'est une autre étape de notre vie. Et j'ai hâte de la vivre, tout comme j'ai hâte de vivre cette dernière année, profiter des derniers instants. Et puis, ça a un goût différent, du coup. On se dit, là, c'est la dernière année. C'est ça, là, c'est la dernière reprise. Mais après, on a plein de choses de prévues après. Et notre après-carrière, pour le moment, ne me fait pas peur.
Et vous avez déjà participé à des Olympiades, à une Olympiade à Tokyo. Vous avez fait une très belle place, d'ailleurs. Huitième.
C'est ça.
Et je me souviens, parce qu'on s'était croisés juste après Tokyo.
Oui, au Trocar.
Et vous étiez, tout le monde vous disait... Vous n'êtes pas trop déçu de votre place et tout. Et vous, vous étiez hyper contente.
Bah ouais. C'était la meilleure place qu'on pouvait avoir. On a fait notre record de points. On était trop contentes. C'était vraiment le meilleur qu'on aurait pu faire. Enfin, on a vraiment nagé.
Ouais, c'était nos meilleurs perfs. On était vraiment très, très contentes. Après, c'est qu'à ce moment-là, les gens attendaient aussi des médailles, des choses comme ça. Et nous, ce n'était pas du tout notre objectif. Et avec l'ancien règlement, c'était inaccessible pour nous d'avoir une médaille. Et on a fait vraiment, on a nagé avec le cœur, on a fait notre meilleure perf, notre meilleure place, on était trop fiers.
Donc 8e place, et là pour Paris, donc, alors vous étiez en duo sur Tokyo, ce qui ne sera pas le cas pour Paris, puisque du coup vous serez en équipe.
Oui.
Vous êtes déjà qualifiée ou pas encore ?
L'équipe de France est qualifiée, après il y a encore des qualifications en interne pour faire partie du 8, parce qu'on nage et on part à 8 aux Jeux Olympiques avec le duo qui est inclus dedans. Donc, il y a encore des sélections à faire cette année, mais en tout cas, l'équipe de France sera présente.
La qualification est liée à la qualification olympique, enfin, automatique liée
au pays hôte. Oui, c'est ça.
D'accord. Parce qu'à Tokyo, on disait, donc vous y étiez en duo, sauf que l'équipe, pour le coup, à la dernière Olympiade, ne s'était pas qualifiée.
Oui, et ça a été très, très difficile. C'est vrai qu'on ne s'est pas qualifié à quelques dixièmes de points. Donc, c'était très frustrant. On a tout mis beaucoup de temps à s'en remettre. Même, c'est une blessure qui n'est pas vraiment...
cicatrisée.
C'est ça, qui n'a pas complètement cicatrisé. Mais là, avoir l'opportunité de repartir sur des Jeux Olympiques et de les faire en équipe, ça donne encore plus de niaque et ça donne encore plus envie d'y aller. C'est pour ça qu'on parle de notre dernière année aussi avec le sourire, parce qu'on sait que si on fait les Jeux Olympiques, ça se terminera de la meilleure des façons.
Ouais, et vous avez fait des très bons résultats aussi cette année, c'est important de le préciser. Vous avez fait championne d'Europe.
Ouais.
Aux Jeux Européens, une médaille d'or et une médaille de bronze.
Oui.
Et une très belle 5e place aux Mondiaux.
Ouais.
Alors, je crois que vous étiez un petit peu déçu quand même parce que vous souhaitiez mieux.
Oui, surtout pour l'équipe technique. On est arrivé 9e.
Mais ça, c'était très décevant dans le sens où quand on regardait les autres perfs, on ne comprenait pas forcément
notre classement.
Et le truc, c'est qu'il y a un nouveau règlement depuis cette année. Donc, c'est trop bien parce que ça nous permet d'accéder. Quand on réussit, on est devant tout le monde. Et par contre, quand on ne réussit pas, on est derrière. Mais c'est juste qu'il y a des fois, on ne comprend pas trop... pourquoi il y a des pénalités sur certaines choses et pas sur d'autres.
Ouais.
Mais c'est comme tout. Enfin, c'est un règlement qui a changé du tout au tout. Il faut s'adapter à tout, que ce soit du côté des juges et de notre côté. Donc, c'est normal qu'il y ait des ajustements à faire. Mm-hmm. Mais c'est très frustrant quand on a travaillé toute l'année et qu'on voit que le résultat n'est pas ce qu'on attendait. C'est très dur. Même si, en prenant du recul, on se dit que ce n'est pas étonnant vu que tout a changé.
Ouais.
Mais ça reste quand même un peu frustrant.
Après, on reste quand même avec une super...
Je suis fière de nous. Hein. On a trop bien nagé. Moi, je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. On a dû changer tout la veille de la compète parce qu'il y a des juges qui sont venus nous voir en nous disant « ça passe pas, il faut changer ». Donc, on a changé toutes nos figures la veille de la compète. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais.
D'accord.
Et c'est très stressant. J'ai jamais été autant stressée de ma vie d'oublier la chorégraphie en nageant.
Comment c'est possible ? Alors là, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est pas grave. Allez, hop. Mais comment c'est possible qu'une veille de compétition, des juges viennent vous voir en disant ça ne passera pas ?
En fait, ce nouveau règlement tend à un sport qui est plus juste, parce qu'avant, c'était assez politique, donc on ne pouvait pas vraiment changer de place, même si on était meilleur, par exemple, que les équipes devant, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Le problème, c'est qu'il est peut-être sorti un peu trop tôt, dans le sens où il n'était pas complètement finalisé, et tous les juges ne sont pas forcément au point. Donc, de compète en compète, il y a un truc qui va passer une difficulté qui passe à une compète, et à la celle d'après, ça ne passera pas. D'accord. Alors que c'est la même, et donc en principe, ça devrait être pareil. Et là, pour le coup, c'est pas passé sur les championnats du monde, alors que c'est passé toute l'année sur toutes les différentes compétitions qu'on a faites.
Après, peut-être qu'on peut remettre aussi dans le contexte. En gros, nous, ce qui a changé, c'est qu'ils ont établi des grilles de difficultés avec des points. Et quand on annonce nos difficultés, on doit toutes les réussir. Et s'il y en a une qui passe pas dans une figure où à peu près il y a 10 difficultés, la figure vaut 0.
D'accord. Donc ils annulent. Enfin, c'est comme s'ils annulaient finalement toute la figure.
On passe d'une figure à 8 points à 0,5 points.
D'accord.
Donc c'est énorme.
On passe de première à dernière.
Instantanément. Vraiment, d'accord. Donc ça, c'est un changement radical dans votre sport. Est-ce que vous trouvez que c'est un... Alors, pareil, on rentre par une porte, qui n'est pas forcément celle que j'avais imaginée, mais c'est pas grave. C'est très bien. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Parce que justement, une de mes questions que j'allais vous poser après, mais c'est comment on gère justement des sports qui sont des sports artistiques, où pendant très longtemps, et comme la gymnastique, comme le patinage en quelque sorte, pendant très longtemps, on a critiqué parce que c'est des sports politiques, il y a des nations qui sont souvent devant, qui sont un peu avantagées, et des fois, on comprend pas très bien pourquoi il y a des points qui sortent ou qui sortent pas, et voilà quoi. Hein. C'est un peu litigieux souvent.
Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que c'est compliqué, on en a lâché des larmes, hein, de déception, de frustration surtout, etc.
D'incompréhension.
Ouais, mais c'est vrai que du coup, nous, on était trop contentes parce qu'en fait, le classement peut changer. Et ça, on s'est dit, on a enfin l'opportunité. Bah, si nous, on réussit, c'est top, on avance. Et si on ne réussit pas, bah, tant pis, ça fait un peu comme tous les sports. Il y a des sports où, bah, quand ils s'engagent dans une compétition, ils ne savent pas s'ils vont arriver premier ou dernier. Et c'est ça, bah, nous, on savait quelle place on allait avoir et quel point on allait avoir avant de commencer la compétition. Donc là, au moins, il y a un peu ce truc de... Notre perf rentre en jeu dans les points et dans le classement, ce qui était du coup moyennement le cas avant. Et par contre, du coup, ce qui est un peu frustrant, c'est que pour l'instant, ce n'est pas vraiment au point. Donc, tout ce qui n'est pas encore calé, bah, c'est les athlètes qui triment pour le moment.
D'accord.
Donc, sur ce point de vue-là, ça fait quand même un peu mal au cœur parce que, bah, on avait beaucoup d'espoir dans ce nouveau règlement, mais c'est une histoire de calage. Je suis persuadée que dans quelques années, ça ira beaucoup mieux. C'est juste que pour l'instant.
C'est juste inquiétant la veille des Jeux.
Oui, j'allais dire ça.
En sachant que nous, encore, on a la meilleure des places, en sachant que nous, on n'a pas à se sélectionner.
Oui, oui, oui.
Parce que les sélections, les places sont très, très chères, en sachant que ce n'est pas les meilleures qui vont au jeu avec le système de quotas par continent. Mm-hmm. Et les filles qui doivent se qualifier, franchement, c'est chaud.
Ça doit être horrible.
Parce que. Vraiment, s'il y a un truc qui passe pas, bah, la figure vaut rien. Ou s'il y a un juge qui a l'impression de voir que la difficulté se termine pas, mais ça vaut rien. Par exemple, c'est si on fait un tour et qu'elle a l'impression que la fille termine, ou le mec, parce qu'il y a aussi les maquinages, dans un huitième en moins, bah, bam, plus rien, c'est fini.
D'accord. Oui, donc en fait, tu peux être sur le papier, on va dire, la meilleure équipe du monde. Mm. Tu peux en une figure loupée te retrouver dans les profondeurs, dans les profondeurs du classement, quoi. Ouais.
Mais après, c'est là justement, il faudrait juste la difficulté qu'on réussit pas à l'enlever. Mais ça, c'est de la technique et c'est aux gens qui gèrent ça, je sais pas comment dire, mais qui vont gérer le truc.
Ouais, ouais.
Nous, ça nous regarde pas. C'est pas notre sport, ça.
Oui, mais c'est quand même vous
qui. On doit le nager, mais c'est pas nous. Enfin, pour moi, la synchro, il y a encore pire avant, il y avait le sport des juges, ceux qui notaient, la politique, tout ça, et nous, ce qu'on faisait dans la flotte. Quoi.
Ça a vraiment changé, maintenant?
Quand même. Bah, après,
après, il y a quand même des choses, moi, je comprends pas trop. Hein.
Ça reste quand même ancré, ça reste quand même ancré, mais je pense que ça tend à changer.
Oui.
Il y a quand même une évolution qu'il n'y avait pas les autres années, ça tend à changer, mais c'est vrai qu'on ne change pas du tout au tout en l'espace de moins d'un an. Donc, ça se fera au fur et à mesure, je pense.
Oui, donc ce nouveau règlement vraiment tend à essayer de un peu déboulonner toutes les années passées qui ont été pleines de polémiques pour aller vers quelque chose de plus sain et plus équitable.
C'est ça, et puis même là, pour l'instant, on est dans un truc où pour avoir les meilleurs points en difficulté, tout le monde fait les mêmes figures quasiment.
D'accord.
Pour caler les mêmes difficultés. Donc pour l'instant, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas du tout artistique. On reste beaucoup de temps sous l'eau, donc clairement, on meurt.
Parlons français, c'est moche. Et les filles en solo, on les voit même plus faire du rétro. Et vraiment,
c'est de l'apnée, quoi.
Les filles, tu les vois en souffrance. Ouais. Mmh. Vraiment en souffrance. Tu dis, mais il faut que je saute à la fin pour aller la chercher, limite.
Bah, il y a eu des petits
problèmes. Ouais, mais ça, c'était avant le règlement, avant le changement. Et c'est
qu'elle a un problème de santé.
Anita avait un problème de santé. Mais c'est vrai
que
maintenant,
ça a toujours été très dur. Mais c'est vrai que là, ça l'a encore plus.
Mais là, vraiment, les filles, tu les vois en train de couler, limite, des fois.
Et justement, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on a expliqué, vous êtes en équipe. Il y a l'équipe acrobatique et l'équipe technique. C'est deux enchaînements, deux routines différentes que vous avez. Est-ce que les deux sont soumises aux mêmes difficultés? Est-ce qu'il y en a un des deux où vous êtes quand même plus libre? Est-ce que l'aspect artistique... Alors ça veut tout et rien dire, hein, mais rentre en compte aussi. Comment ça se passe concrètement?
Alors, il y a trois ballets qui seront présentés au jeu. Il y a l'équipe technique, l'équipe libre et l'équipe acrobatique. Mmh. L'équipe libre et l'équipe technique, c'est sensiblement pareil qu'au patinage artistique, avec un programme technique, avec des éléments qui sont imposés dedans. Et l'équipe libre, il y a un peu de tout. Donc, dans cette équipe libre et l'équipe acrobatique, il y a les portées qui sont comptées dedans, donc qui prennent une grande place dans la difficulté, donc dans les points qui sont notés. Et dans l'équipe libre, il y a en plus les figures qui sont notées. Et l'équipe technique, il y a les figures qui sont comptées aussi.
En fait, l'équipe libre, c'est un peu le mélange de l'équipe technique et l'équipe accro, puisqu'il y a les portées, les figures avec la difficulté. Et l'équipe technique, c'est un peu plus peut-être automatique. Et l'équipe accro, c'est plus spectaculaire, avec des portées plus artistiques, où vraiment on peut se lâcher.
D'accord. Ah, attendez, parce que du coup, vous faites l'équipe libre ?
Oui, c'est juste qu'on n'en a pas présenté cette année.
D'accord, ok. Parce
au jeu, on n'a pas le choix, ouais. On est obligé de tout présenter.
Vous êtes obligé de présenter les trois au jeu, ouais. Donc libre. J'explique, parce que c'est pas forcément,
c'est pas évident.
C'est pas forcément évident pour les gens qui connaissent pas comment fonctionne le patinage, j'allais dire. Donc il y a l'équipe acrobatique, l'équipe technique et l'équipe libre.
Oui, c'est ça.
Qui sont trois enchaînements différents.
Ouais. C'est ça.
D'accord. Et pour le podium final, on va dire, c'est au jeu, ce sera le total des trois. D'accord. Donc c'est hyper éreintant.
Ouais. Oui.
Et vous avez vous passez les trois enchaînements sur des journées différentes quand même ou...
Au jeu, oui. Après, il y a des compètes où des fois, on en a deux dans la même journée. Enfin, une élime, un final dans la même journée, mais c'est rare maintenant.
Et dans le circuit international, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que là, cette année, par exemple, vous avez pas présenté de libre.
Oui, parce que c'est des podiums et des classements par
par catégorie. Enfin, par équipe.
Il y a que au jeu où ça s'accumule.
Où c'est spécifique.
Ouais.
Ok. Et donc, vous expliquez que le nouveau règlement, du coup, était hyper exigeant en termes de technicité et presque, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez l'impression de perdre l'essence de ce qu'est la natte artistique ou
Un peu. Un peu. Bah, c'est frustrant dans le sens où l'année avant que le règlement change, je trouvais que la synchro, elle est un peu dans le spectaculaire, la danse. Mm-hmm. Et du coup, même les gens qui ne comprenaient pas, ils se prenaient les effets visuels. C'était très joli à regarder. On voyait, il y avait plus d'âme dans les ballets, une histoire. Et là, avec le nouveau règlement, comme on doit mettre le plus de difficultés possible, je trouve qu'on perd un peu ça. Et c'est, même pour nous, c'est moins joli à regarder. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça doit l'être même pas très intéressant au final. Mm-hmm. Mais bon, je pense que c'est le début et ça va changer.
Mm-hmm. C'est un sport qui a l'air extrêmement exigeant. Selon vous, quelles sont justement les spécificités vraiment de votre sport ?
Je pense la souplesse. Je sais pas, c'est difficile comme question. Attends, faut que je réfléchisse. T'as des idées, toi? La souplesse.
La souplesse, être à l'aise dans l'eau.
C'est ça. La synchronisation, mine de rien, savoir être en rythme, etc. Ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Oui. Avec la tête en bas aussi.
L'esprit d'équipe.
Connaissance de son corps. Ouais. Parce qu'on est quand même tête en bas, tête en haut. Faut quand même connaître la verticalité, etc. Oui, mais tu vois, niveau verticalité, faut quand même connaître son centre. Oui. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que ça regroupe pas mal de sports, mine de rien, la synchro, entre un peu de danse, un peu de gym, un peu de natation, un peu d'accro. Enfin, il y a un peu de tout, quoi.
Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez commencé et qu'est-ce qui continue de vous plaire maintenant ? Parce que c'est peut-être pas la même chose.
Ouais.
Non, ouais, c'est vrai que ça a totalement changé.
Bah, quand on était petite, je pense que c'est quand on a vu un gala, on a fait ça qu'on veut faire, quoi. C'est la danse dans l'eau, c'est trop bien. On était trop à l'aise dans l'eau, en plus, depuis toute petite. Donc, nous, on s'est dit, mais feu, quoi. C'est vraiment le match parfait. Et après, au fur et à mesure des années, en tout cas pour ma part, c'est plus tout ce qui est esprit d'équipe, travailler ensemble, que ce soit avant en duo et maintenant aussi, en équipe. Cet esprit d'équipe, sentir ce groupe, etc. Parce qu'en fait, les filles avec qui on a, c'est limite des sœurs. Enfin, on est tellement soudées que. C'est hyper galvanisant quand on nage, donc maintenant c'est vraiment ça. Et puis même la recherche de performance, maintenant.
Les objectifs. Ouais.
Moi j'ai toujours c'est une des questions qui m'est venue en premier quand j'ai commencé à écrire le script pour cette interview. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui te fait rester dans un sport aussi longtemps qui te fait tellement souffrir?
c'est ça. Hein.
Parce que c'est tellement dur de faire de la synchro, je pense que tout le monde s'en rend pas compte, mais c'est tellement dur.
Moi toute seule, honnêtement, je n'aurais pas continué.
Moi non plus.
Toute seule, c'est trop dur. Enfin, les filles qui font que du solo, je sais pas comment elles font. Parce que au moins là, on est toutes ensemble. On est toutes ensemble dans la même merde, genre vraiment. Des fois, on fait les séances de la mort. Il y a toujours un petit regard ou une petite blague entre nous et on va même réussir à sourire alors qu'on est juste au bout de notre vie. T'as envie de faire le caillou dans l'eau. Mais moi, c'est ça qui me fait tenir et qui au final fait passer les choses dures et arrive à avoir les beaux moments. Ensemble.
Vous avez le sentiment, des fois, vraiment de vous faire du mal ?
Oui.
Bah, clairement, là, on est en pleine reprise actuellement. On a tellement mal au corps en venant ici. Rien que les escaliers dans le métro. Deux mamies, on est sportifs de haut niveau hein, quand même, hein, mais deux mamies dans les escaliers là, en train de souffrir. Donc ouais, il y a des moments, c'est difficile. Et on se dit, mais pourquoi je fais ça ?
Tout sportif s'est déjà dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je m'inflige ? Mon Dieu. Mais au final, après, on se rappelle nos objectifs. Et après, nous, c'est simple, entre guillemets, dans le sens où on a les filles à côté. Donc, si tu le fais pas pour toi, tu le fais au moins pour les filles à côté. Et après, ça relance et ça te remotive. Mmh. Et on n'est pas toutes seules là-dedans. Mmh.
Qu'est-ce qui est le plus dur, mentalement ou physiquement ?
Ah, les deux.
Parce qu'on a quand même des grosses journées. Donc, des fois, quand tu sens que t'en chies et que tu vois que t'as fait 2 heures d'entraînement, qu'il t'en reste 3 pour ta matinée et que l'après-midi, tu retournes pour 3 heures dans l'eau, des fois, tu te dis « Waouh, la journée va être longue et éprouvante ». Mais après, d'un côté, c'est la synchro. Donc, un sport, c'est un sport où on s'entraîne beaucoup, c'est un sport qui est dur, c'est un sport qui est exigeant. Mais d'un côté, il y a aussi des beaux moments, parce que sinon, on n'aurait pas continué comme ça. On n'est pas folle non plus, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher un petit peu.
Comment on fait pour garder cet équilibre ? J'ai l'impression, je vous écoute, quand j'ai pu un petit peu regarder même ce que vous faites, le podcast, qui est un très bon podcast que je vous conseille, qui s'appelle Entre Sportifs. que vous questionnez beaucoup justement votre statut de sportif de haut niveau et que vous essayez de le conscientiser en quelque sorte pour pas que ça vous fasse couler quoi. On va commencer à rentrer dans le lexique
de l'eau. C'est vrai qu'on échange beaucoup. En fait, nous, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup échanger sur tous les sujets. Et c'est vrai qu'on en parle aussi avec des personnes qui sont non sportives de haut niveau. Bah, par exemple, les personnes qui sont dans notre classe à l'école qui ne font pas de sport ou même notre famille, etc. On en parle beaucoup. Et puis même justement avec les sportifs de haut niveau sur comment ça se passe dans notre sport, mais comment ça se passe dans les autres sports, etc. On aime beaucoup discuter de beaucoup de sujets, parler de beaucoup de choses. Et c'est aussi important de prendre du recul de temps en temps sur sa situation et sur ce qu'on vit. Parce que c'est vrai qu'on est tellement dans une bulle. En plus, on s'entraîne à l'INSEP, on est tous entre sportifs de haut niveau, tout le temps à la recherche de perf, etc. Où des fois, on peut un peu se noyer dedans et se dire en fait, si je ne ramène pas des médailles, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne. Je ne mérite pas forcément ma place ici. De temps en temps, on a un peu ce ressentiment-là. Et en fait, de temps en temps, quand on prend juste un peu de recul, on se dit, en fait, ce qu'on fait, c'est fou. On est quand même en équipe de France. Et c'est sur ces moments-là où c'est important aussi d'en parler avec des personnes qui sont extérieures du milieu ou avec d'autres sportifs de niveau pour justement se rendre compte de certains aspects de son sport, mais aussi de sa vie, même de l'après-carrière, de tout ça. C'est important de s'ouvrir un peu à plein de sujets pour déjà dans la vie en général c'est important, mais en plus je trouve quand on est sportif de niveau on peut parler de plein de choses encore.
C'est vrai que vous avez un équilibre à trouver, on l'a pas forcément évoqué encore pour le moment, mais vous êtes sportif de haut niveau, vous vous entraînez quasiment tous les jours, en plus de ça vous faites des études. Donc il y a tout ça mixé qui est quand même c'est pas mal.
Ça fait des bonnes journées, effectivement.
Ça fait des bonnes journées. Cet équilibre-là, finalement, presque, j'ai envie de dire, est-ce que les études, tous les à côté, au lieu de rajouter une charge supplémentaire, ça vous permet aussi d'équilibrer avec le sport ?
Ça dépend des périodes. Bien évidemment que moi, le double projet, c'est ce qui me maintient un petit peu dans le sens où ça me donne aussi un équilibre. Exactement ce que tu as dit, ça me donne un équilibre. Et en échangeant avec les filles de l'équipe ou d'autres sportifs et d'autres sportives, ça amène aussi autre chose dans la routine de l'entraînement. Ça amène aussi un petit peu une autre bulle, sortir un peu la tête du sport de haut niveau qui peut être un peu oppressant et de temps en temps un peu trop exigeant, et juste souffler un peu, prendre un peu de recul avant de retourner tête baissée dans le sport. Par contre, il y a des périodes où quand les compètes arrivent, période de partiel, là c'est un peu la mort. Il y a des fois où j'ai l'impression qu'on se noie un petit peu parce qu'on peut pas aller en cours. Là, cette année, on a 2 demi-journées pour faire les cours, ce qui est très peu. On est en prépa quand même.
Par semaine ?
Ouais.
OK.
Donc, c'est chaud. Et en même temps, on doit rattraper les cours où on n'est pas là, toute seule, avec les profs qui nous aident, bien sûr, ou des étudiants, mais c'est quand même pas pareil que quand on va en cours. Après, il faut travailler les partiels. En même temps, il faut aussi se reposer. Il ne faut pas dépasser trop les limites parce que notre corps, si on le lâche, notre carrière sportive s'arrête. Donc, c'est un équilibre à trouver qui n'a pas été forcément évident. Et après aussi, dans notre malheur, entre gros guillemets, c'est une expression, mais pas du tout, c'est qu'on est deux là-dedans.
Ouais.
Donc, on fait la même chose avec Laura et franchement, on soutient, même quand les périodes où on a partiel, où c'est dur de travailler, des fois, on vient de se taper 8 heures d'entraînement avec les grosses séances bien pour faire le physique et c'est très, très dur. Et on n'a qu'une envie, c'est de dormir, mais non, il faut bosser un petit peu. Donc, on se fait un FaceTime toutes les deux.
Ça, c'est trop la technique, franchement, astuce. On se fait un FaceTime, comme ça, on bosse, on n'a pas le téléphone pour être diverti. On bosse, on se pose directement les questions, comme ça, on arrive à être productive. Ou même sinon, moi, des fois, je me mate une vidéo sur YouTube des gens qui travaillent tout seuls. C'est trop motivant, vraiment. Donc, il faut trouver des petites astuces comme ça pour arriver au final à allier les deux. Et après, sinon, bien s'entourer pour être motivé. Parce que moi, exemple concret, l'année dernière, j'ai passé mon partiel de maths. Et je me sentais vraiment dépassée par les maths, donc j'avais demandé à mes parents si je pouvais avoir un prof particulier. Donc mes parents ont mis ça en place et tout, donc j'avais vraiment je m'étais mise la pression toute seule de réussir. Mm-hmm. Je passe mon partiel, je sors, je chiale. Je me dis, mais t'es une grosse merde, t'as raté. Enfin, je savais que j'avais raté parce que je ne trouvais pas les résultats que je devais trouver. Et je me dis, mais nul, tu es nul, vraiment, t'as pris des cours perso, ça t'a pas réussi.
On a eu droit à une grosse remise en question après pour aller à l'entraînement parce qu'on a fait du covoit, t'étais en train de pleurer, elle disait « Mais Laura, je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc. Je vais me réorienter. » Je suis en mode « Mais Charlotte, pause. »
Il y a vraiment des moments comme ça et au final, mes parents me disaient « Mais Charlotte, t'as pris 3 cours, les étudiants, ils ont des maths tous les jours, 2 heures par jour, toi non. » Et il faut arriver aussi à remettre un peu dans le contexte où des fois, bah ouais, ça arrive, on est un peu dépassé. Mais c'est pas facile tous les jours.
Mmh. Ouais, c'est vrai que de temps en temps, on oublie qu'on s'entraîne 8 heures par jour.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que tu vois, une des premières phrases que tu as dit, dites pour expliquer ce que ça te... Tu dis ça, à un moment donné, on se retrouve avec les partiels, les entraînements, les compétitions internationales à devoir assurer. Moi, pour moi, excuse-moi, mais quand tu m'as dit ça, j'ai eu un espèce de truc clignotant angoisse qui est arrivé au-dessus de ma tête, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est, en fait, quand t'as tellement de choses à gérer et à devoir réussir, moi, je trouve que c'est vraiment la pédale de l'anxiété, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir une école qui nous accompagne énormément dans ce double projet, dans le sens où on peut passer à distance certaines choses, certains contrôles, évidemment sous surveillance, etc. Mais au moins, ça nous évite certains trajets. Il y a des moments où on sort de l'eau, on fait un partiel, on re-rentre dans l'eau. Après, c'est une organisation et c'est vrai que ça, c'est aussi ça où le sport de niveau, ça apporte énormément dans la vie. Ça nous permet de nous construire aussi dans le sens où... on apprend à switcher entre différentes choses, entre notre vie pro, notre vie au niveau des études, notre vie sportive assez rapidement et savoir aussi s'organiser, savoir où sont ses limites parce que c'est vrai que de temps en temps, nous la première année on est passé en études sup, on s'est clairement
défoncé la santé,
travailler, etc. Et on s'est dit c'est bon, on se impose des limites et de temps en temps faut apprendre à dire là on fait une petite pause, c'est pas grave, de toute façon on peut pas faire plus et accepter, c'est un peu dur en tant que sportif, mais accepter de pas forcément être les meilleurs pour l'instant dans les études et de pas forcément avoir les notes qu'on souhaiterait.
Cherche pas même l'excellence dans les notes.
Même si finalement, on se retrouve, on a quand même des très bonnes notes dans certaines matières qui sont quand même difficiles, etc. Mais c'est vrai qu'il y a
pas les maths du coup.
Les maths, on déteste ça, faut savoir.
C'est un comble pour une école d'ingé quand même. Hein.
On est plus physique que maths, mais de temps en temps, faut accepter de pas forcément avoir les meilleures notes et de pas forcément pouvoir exceller dans tous les domaines, et c'est ce qui est normal.
Mais je rejoins ce que tu dis, c'est qu'on a aussi appris à prioriser les choses. Ouais. Dans le sens où on est obligé de se faire une liste avec OK, ça c'est plus important, ça. Il y a d'autres choses, tant pis. Des fois, on voit la boîte mail, 20, 30 mails à gérer, mais désolé, mais là, il y a partiel, il y a l'entraînement aussi. Et il y a des choses où des fois, on est un peu surmené. Papa, maman, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, s'il te plaît ? Et on a trop... Franchement, on a un entourage qui est au top et qui nous accompagne tellement que des fois, ça nous soulage aussi.
En fait, ça vous oblige à être agile, d'être sportif de haut niveau et d'avoir tout ça en parallèle et une adaptabilité qui est juste sans commune mesure, je pense.
Ça, c'est clair.
Ouais.
En plus...
Encore pire depuis le Covid, au final.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nous, on a un sport où, depuis le Covid, il y a beaucoup de compétitions qui ont été annulées au dernier moment, qui ont été déplacées, etc. Donc, on a quand même appris à se laisser un peu glisser sur certains points et à se dire, il se passe ça, c'est pas grave. On va faire autrement. Et ça, au début, c'est difficile quand même.
Ouais. Surtout que moi, j'étais stressée un peu de tout. J'étais un peu en mode, mais si ça se fait pas, machin et tout. Et au final, quand on se laisse un petit peu porter, il y a des gens pour qui c'est le métier d'organiser les choses. Moi, je vais me laisser porter. Moi, de toute façon, je vais faire ce que je sais faire. Et arriver à lâcher un peu du zeste.
Ça, l'expression.
Lâcher un peu prise.
Lâcher du lest.
Lâcher du lest.
Du zeste. Un zeste de citron.
Ah là là, les expressions françaises, mon Dieu. J'ai l'impression d'être Nabila là. J'ai des études de physique, pas littéraire, tu sais.
Ça n'excuse pas.
Non. Mais pourtant, ça, c'est un truc. Je me suis remise à lire. J'adore lire vraiment. Je bouquine énormément. Il y a des fois, je me rends compte d'expressions ou de mots en lisant.
Comment, parce qu'en fait, comment ça s'écrit?
Je ne l'avais jamais vu à l'écrit. Et du coup, je me dis, mais mince, ça s'écrit comme ça.
Ben voilà. Maintenant, c'est à moi d'enchaîner après avec ça. Bon courage. Merci beaucoup.
Je vais juste m'attacher les cheveux.
Vas-y. Vous voulez une petite serviette fraîche un peu, là?
Bon, je fais un petit aparté hors podcast, mais vous aurez compris qu'il faisait 40 degrés pendant l'enregistrement, donc on a pris quelques minutes pour se rafraîchir les corps et les idées. Mais pas d'inquiétude, on reprend tout de suite.
Petite pause glacée, petite de retour.
Avec nos petites serviettes dans le cou.
On dirait des boxeuses, tu sais, avec leur, avec leur petite serviette derrière le cou.
Par contre, no jokes, j'aimerais trop essayer la boxe après la synchro.
C'est vrai?
Juste un petit peu, un petit cours comme ça pour voir.
C'est vrai, là tu pars dans des opposés.
Mais
des
pas,
opposés,
mais pas box-box à taper, mais tu sais, les cours de cardio-box, ça doit être trop sympa.
Ouais, tu dois faire une heure, mais tu te défonces en une heure. Donc, pour revenir à nos oignons.
J'avais dans nos moutons, ouais. Elle avait dans la tête. Décidément, les expressions.
À nos moutons. Si, ça marche aussi. Ça marche aussi. Les oignons des moutons. Du coup, ouais, au niveau de... Moi, j'avais une question aussi au niveau de la spécificité de votre sport que je trouve... Alors là, ça va vraiment plus s'adresser à l'équipe. On est dans un sport où... un sport, j'ai envie de dire, qui... Je vais dire des mots forts, mais qui éteint un peu les individualités. Où quand tu es en groupe, l'idée, c'est d'être le plus homogène possible. Et toi, en tant qu'individu, sauf quand tu es en solo, bien évidemment, tu n'existes pas trop, quoi. Comment on gère ça dans un sport? Je trouve ça hyper dur, moi, personnellement.
C'est une question hyper pertinente, je trouve, parce que...
C'est fou, parce que je n'ai jamais vu de ce point de vue.
Ouais. Et c'est vrai, parce qu'en soi, tu as dit l'homogénéité, c'est ça. Faut qu'on... Quand le juge nous regarde, il faut qu'il ait l'impression de voir qu'une nageuse.
Ouais.
Donc, on cale tout, les expressions, la posture, les hauteurs, les doigts, dans quel axe ils doivent être, etc. Et c'est vrai que, on peut s'oublier, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas. En fait, moi, j'ai plus l'impression qu'on est plus à l'unisson. Et que quand on est toutes pareilles, il y a vraiment ce sentiment de groupe hyper, hyper fort. On a l'impression qu'on fait face, en fait. On fait face tout ensemble, toutes les huit, ouais. Au jury ou même face aux concurrentes, etc. Donc, j'ai pas forcément l'impression d'être noyée dans la masse. J'ai plus l'impression de, justement, on fait partie de ce groupe-là ensemble.
Et je pense aussi que... Enfin, du coup, je repense un peu aux entraînements, mais individuellement, on est obligé d'être au meilleur pour que le groupe soit meilleur. Du coup, au final, il y a aussi une recherche méga individuelle de se faire voir parce que des fois, un juge, il ne peut pas fixer huit nageuses, donc il va fixer une fille. Et si on ne se donne pas à fond, on ne lui fait pas transmettre le message qu'on a envie de transmettre, c'est toute l'équipe qui prend cher un petit peu. Donc, mais franchement, c'est super intéressant parce que je ne l'avais jamais vu de ce côté-là. Mais après, quand on nage en équipe, on est surtout dans l'entraide. Enfin, moi, je suis vachement dans l'entraide. Par exemple, des fois, il y a des déplacements qui sont plus ou moins intenses. Hop, tu as poussé la fille pour qu'elle aille plus facilement à sa place ou
des choses comme ça.
Ouais, c'est
souvent, il y en a une qui est un peu plus au fond de l'eau. Souvent, Charlotte, vu qu'elle est pilier ou la voltigeuse qui retombe un peu dans des endroits, hop, tu la prends, tu la retournes, tu l'envoies, hop, tu passes la main, l'autre attire. Enfin, c'est l'aspect un peu qu'on ne voit pas, qui se passe un peu sous la surface. Mais on est un peu toutes là pour les unes pour les autres aussi dans l'eau et ça se ressent.
C'est drôle, la façon dont vous le dites et vous l'expliquez, on a plutôt l'impression du coup d'être dans un sport collectif que plutôt dans un sport artistique où justement l'idée dans un sport artistique c'est de se mettre en avant et d'être à son avantage de façon un peu personnelle et dans son unicité. Alors que dans les sports collectifs comme le rugby par exemple, ou au contraire c'est tu t'oublies entre guillemets pour le collectif, quoi. C'est comme ça que je le ressens, c'est marrant, alors qu'on ne se dirait pas forcément ça de la natation artistique.
Au final, il y a énormément de choses.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je pense qu'on ne sait pas quand on ne fait pas de la synchro, mais en gros, dans des formations, il y a des déplacements. Les filles qui sont devant, on les appelle les chefs de la formation. Et des fois, il y a des places qui sont plus dures que d'autres. Donc, si les filles qui sont devant tracent et ne pensent pas aux filles qui sont derrière,
c'est la mort. Et les filles derrière, elles peuvent pas être fortes parce que bah, tu peux pas avoir les bras en l'air et te déplacer de 5 mètres d'un coup, c'est pas possible. Du coup, au final, dès qu'on, peu importe les places où on est quand on nage, on pense aux filles qui sont derrière. On sait que là, elles sont en galère, donc faut faire attention. Là, on sait, bah, moi, par exemple, à la fin de chaque portée, je termine au fond de l'eau. Vraiment, j'ai les fesses par terre. Sauf que je n'ai pas le droit de m'appuyer du sol pour remonter.
Ouais.
J'essaie de me débrouiller comme je peux, mais des fois, je tends un bras, il y a une fille qui m'aide pour remonter.
D'accord.
Même une fille qui me prenait toujours par la nuque pour me remonter, ou des fois Laura qui me donnait un coup sur les fesses. On ouais. pensait qu'il y a une fille à côté qui est dans la galère pour son changement, bah, tu la pousses pour qu'elle puisse arriver à sa place. Au final, on est plus dans la collectivité, en fait, exactement ce que tu as dit, dans la recherche ensemble et d'aider entre nous, tout en, bien sûr, avec le côté artistique de bien se faire voir, aller chercher les émotions beaucoup.
Est-ce que c'est compliqué aussi de se faire écarter parce qu'on est trop différente? Et là, je vais parler de critères physiques. Là, quand on vous voit en compétition, quand on voit les photos de départ et tout, vous faites quasiment toute la même taille.
Ouais.
Vous avez des gabarits hyper similaires. Effectivement, on a l'impression de voir une nageuse, enfin une athlète dupliquée en 8. C'est assez impressionnant. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont compliquées aussi à gérer en tant que sportif, de se faire juger par des, bah, sur des critères physiques, quoi?
Bah, c'est vrai qu'on l'intègre quand même assez tôt. Bah, la première chose que le juge voit quand on arrive sur la plage, c'est nous, notre corps. Après, c'est vrai que nous, on est quand même super bien accompagnés. Bah, à l'INSEP, on est suivi par une diététicienne, que ce soit purement bah, au niveau d'alimentation, mais aussi physique, etc. Donc, sur ce côté-là, on est super bien accompagnés. Après, c'est vrai qu'au niveau du collectif, bah, forcément, quand il y a des grosses différences physiques avec les autres, bah, l'œil va être attiré par cette personne-là. Donc, on va plus voir les fautes, on va plus voir tout ça. Donc, je pense que ça se fait plus naturellement au fur et à mesure des sélections. C'est ça, en fait, la dureté des sports artistiques, c'est qu'arriver à un certain niveau, la part physique prend aussi... une place
ça a son importance. Ouais, son importance, ouais,
et ouais. C'est horrible. Hein. Tout comme, par exemple, quand on fait une compète à l'extérieur, il y a des filles qui bronzent pas du tout et des filles qui bronzent beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas.
Bah, la diff, nous, je sais qu'avec Laurent, on fait partie des filles qui bronzent le plus, à côté des filles qui sont purement blondes de peau, qui crament, et on est obligé de leur limite de les couvrir parce que sinon, elles prennent cher. Bah, dans l'eau, ça se voit beaucoup plus les différences
ouais.
entre nous, du coup.
Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas, mais c'est vrai que même les différences de teinte.
Donc, il y en a qui mettent de l'autobronzant, ça arrive, etc. Enfin, ça va jusqu'à ce point-là.
Ouais, à réfléchir à faire ça quand même. Ouais.
C'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est, oui. vrai que
c'est la recherche de l'excellence.
Mais est-ce que du coup,
quoi.
C'est pas aussi discriminant, par exemple, pour les personnes de couleur?
C'est vrai.
Si, oh. carrément.
Ouais.
Après, pour le moment, on s'est pas trop posé la question parce que
ça s'est pas présenté
aux étapes de sélection. National, enfin pour l'équipe de France, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet.
Bah, est-ce que finalement, j'ai envie de dire, est-ce que du coup, quand t'es une personne noire, tu te dis, bah, de toute façon, ça sert à rien que je fasse de la natation synchro parce que j'aurais pas ma place?
Non, je pense pas parce que c'est. Je sais pas. Enfin, moi, je suis un peu dans le monde des bisounours, hein, mais vraiment, ce serait horrible. Mais après, c'est vrai que d'un côté, enfin, moi, je sais par exemple que je bronze très facilement, je me mets à côté de la fille qui bronze pas, bah, on va me voir que moi parce que bah, on va voir mes fautes ou on voit une différence. Même par exemple, c'est un truc tout bête, mais quand on nage ensemble et qu'on a tout un bonnet blanc, c'est un bonnet noir. Mais là, on va voir que toi dans le balai, on va voir que les fautes, les trucs comme ça. Donc,
C'est vrai que pour l'instant, le cas s'est jamais présenté.
Bien sûr.
Mais c'est
je sais pas, à voir sur le moment.
C'est comme un critère physique, quelqu'un qui est très petite ou quelqu'un qui est très grande aussi.
Bien sûr.
Ouais.
C'est horrible.
C'est vrai que ça peut paraître comme c'est... ça très discriminant.
Ah, mais ça l'est. Hein.
Ouais. C'est un vrai sujet, je pense, où bah faut se poser pour y réfléchir, etc. Mais c'est vrai que sur la scène internationale, bah toutes les équipes c'est les mêmes physiques.
Ouais, ouais.
Surtout moi, j'ai en tête les Chinoises, elles ont toutes la même taille, c'est comme des jumelles, toutes la même taille, toutes le même physique, vraiment.
De devant et de profil, hein, ouais. C'est les mêmes.
Et du coup, bah parce que dans l'eau ça rend super bien parce que tout le monde est déjà quasiment synchro au niveau de son corps. Donc oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Après, ça n'empêche pas que bah, tout le monde peut faire de la synchro et ça n'empêche en rien, même dans les plus petits niveaux, on va dire. Mais c'est vrai que sur le haut niveau, bah, pour l'instant,
ça, je trouve aussi qu'il y a un sujet dans le sens où des fois, il y a des gens qui n'osent pas se lancer dans un sport parce qu'ils disent « Ah, mais j'en ferai pas haut niveau ». Mais le sport, pour moi, la base du sport, c'est avant tout le plaisir. Enfin, on commence à faire un sport pour des valeurs, le plaisir. Et enfin, j'ai parlé avec des gens sur Instagram, je leur ai dit « Mais déjà, profite. Enfin, c'est trop bien le sport, apprends. Enfin, » prends les valeurs, prends le bonheur, prends, tu te fais des potes pour la vie, au sport. Et ça, c'est avant tout la base avant d'arriver au niveau. Et je trouve que c'est un autre sujet où des fois, c'est un peu « Ah bah, tu fais pas du haut niveau, c'est nul ». Bah non, c'est pas nul.
Oui, c'est la...
enfin, c'est complètement à part, hein. C'est un autre sujet. Oui, mais vraiment,
la valorisation ouais. du haut niveau et de la performance, ouais. Comme ouais. c'est beaucoup le cas en ouais. France. C'est vrai. Hein,
c'est non, vrai. Mais c'est vrai.
On n'a pas tous la même approche et la même du sport dans les pays, quoi. Donc, et justement, pour revenir sur cet aspect aussi, critères physiques, spécificités physiques, est-ce que c'est pas compliqué en temps normal? Tu parlais de nutrition, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est pas compliqué dans le sens où, au bout d'un moment, ça devient une obsession? C'est-à-dire justement de ne pas prendre de poids, de ne pas non plus en perdre finalement, parce ouais. que tu dois rester aussi homogène, de faire attention à ce que tu manges, de la façon dont tu parais, d'avoir une sorte de contrôle permanent sur ta vie, en fait.
Ça peut l'être. Ouais. Ça peut être très dangereux, bah comme dans tous les sports artistiques.
Et même pas que dans les sports artistiques, les sports
oui, mais
à
je veux dire, oui, mais ça, c'est vraiment un truc qui est à part. Et moi, je m'y connais pas du tout, donc je pourrais pas du tout m'exprimer là-dessus. Mais du moins, dans les sports artistiques, on est jugé sur notre corps. Enfin, c'est pas, t'es sur la balance, t'as des formes différentes, ça se voit pas. Mm. Alors que là, vraiment, on arrive, on est jugé sur le corps. Et faut faire vraiment super attention. Et c'est pour ça aussi qu'à l'INSEP, on est suivi par une diète régulièrement. C'est nous qui choisissons le rythme des entretiens avec la diète. Et faut aussi être bien entouré et bien éduqué dans. Qu'est-ce que c'est bien manger ? Bien manger, c'est faire des repas qui sont équilibrés, certes, mais ça implique aussi des plaisirs. Enfin, si tu as envie de te faire un McDo un soir, tu te fais un McDo un soir. Si tu as envie de boire du coca un soir, bah, tu te fais un coca un soir, même deux soirs, même trois soirs, c'est pas grave. Il faut juste donner à ton corps ce qui va lui permettre de pouvoir tenir les entraînements.
Ouais, de se sentir bien, de pas être frustré, parce que dans les sports artistiques, on a souvent la sensation qu'il y a beaucoup de frustration. Qui existe.
Ouais, ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre la part des choses. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ai toujours mangé du Nutella le matin et je continuerai à manger mon Nutella le matin. C'est un truc bête, mais quand je dis ça, souvent, les personnes ils me disent « Ah bon, mais pour une sportive de niveau, t'as le droit ?» Bah, bien sûr que j'ai le droit. Je prends le droit. C'est pas parce que je fais du sport dans la journée que j'ai pas le droit de manger du Nutella. Au contraire, j'élimine ce Nutella. Et encore, je trouve que cette réflexion-là de « Bon, bah, je fais du sport, donc je peux éliminer mon repas », c'est quand même... Ça peut, de temps en temps, être un peu...
C'est un peu trigger, limite, moi, je trouve.
C'est ça. Mais non, on est super bien accompagné, que ce soit sur tous les régimes alimentaires qu'on veut. Par exemple, moi, je suis végétarienne. Enfin, ça apporte. Enfin, c'est pas grave, mais on est suivi par ça. Enfin, par la diète et on est suivi par.
On a quand même toute une vision de notre corps qui est complètement biaisée par rapport à la réalité. Ça, on essaie. On se regarde vachement les cuisses parce que c'est ce qu'on voit dans l'eau en premier. Et on a un regard qui est quand même un peu pas dans la réalité. Après. Moi, j'ai eu un.
Il faut en avoir conscience et on en parle entre nous. C'est ça qui est sain, en fait, surtout.
Bah, moi, j'ai eu un déclic au confinement. Parce que vraiment, moi, je me trouvais grosse des cuisses. Enfin, vraiment, pour parler français, je me trouvais grosse des cuisses, alors qu'en fait, je suis pas du tout grosse. Je fais du sport de haut niveau. Enfin, je suis musclée. Et du coup, je sais pas, j'ai commencé à me prendre en photo quand je me trouvais bien dans le miroir ou des trucs comme ça. Et en fait, je me rends compte que les moments où je me trouvais pas bien, que je me prenais en photo, et les moments où je me trouvais bien, il y a même des fois en fait, où j'étais plus fit ou au moment où je ne me trouvais pas bien. Et je sais pas, ça m'a permis de passer un cap et je me dis, mince quoi, fin, si je ne me trouve pas bien maintenant et que je suis complexée en faisant du sport de haut niveau, ce sera quoi après ma carrière? Ça va se passer comment? Donc après, je pense que c'est aussi en grandissant et j'en parle beaucoup, beaucoup avec ma famille parce que c'est important, même avec mon copain, mes amis, et c'est important de ne pas rester dans le silence et de garder ses... Un peu en mode, tu te touches le ventre, tu te dis « Ah mince, j'ai pris », tu te vois dans le miroir « Ah mince, je trouve que j'ai des grosses cuisses et tout ». Moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi pour avoir l'avis des gens et puis même pour m'ouvrir un petit peu sur ce qui est sain ou ce qui ne l'est pas.
Ouais.
Après, ça a été un parcours pendant plusieurs années. Hein. Je n'ai jamais eu de dérive alimentaire ou quoi. Mais c'est vrai que mon regard sur mon corps a été très dur.
Mmh.
Et là, je commence un peu à prendre du recul, à me dire « Écoute, de toute façon, t'es musclé, c'est comme ça. » Parce que avec Laurent, on a une morpho où on prend très vite en muscle. Et c'est super pour la synchro, mais il ne faut pas non plus qu'on prenne trop en volume musculaire. Et du coup, j'ai l'impression d'être un bonhomme, d'être comme ça. Il y a même des hauts que je ne m'autorisais pas à porter parce que je trouvais que je faisais trop gros bras. Et à un moment, merde quoi. Enfin, si j'ai envie de mettre un haut, je mets un haut. Si je me trouve bien dedans, je me trouve bien dedans. Après, je ne sais pas. Enfin, je commence à prendre une autre vision là-dessus. Ouais.
Ouais, mais c'est vrai qu'on a de la vision du corps. Enfin...
En fait, le truc, c'est que notre corps est aussi notre outil de travail.
Ouais.
Enfin, c'est ce qu'on utilise au quotidien. C'est notre corps qu'on va utiliser tous les jours pour pousser nos limites. Et
surtout qu'on a un modèle c'est des filles qui sont grandes, fines, musclées, mais pas trop, etc., qui sont vraiment style un peu parfaite, entre guillemets, pour notre sport. Et qu'on tend à avoir. Sauf que bah, forcément, on ne peut pas tout avoir le même physique. Donc, comme tu as dit,
oui.
On peut prendre...
Puis on est sportif de haut niveau, on est aussi des femmes aussi à côté.
Oui, c'est ça. Et puis même, bah, entre le corps de quand on arrive à l'INSEP et le corps qu'on a maintenant, forcément, il a évolué parce qu'on est, bah, on est devenus des femmes maintenant. Donc forcément, on ne garde pas le corps qu'on a quand on a 15 ans.
Ouais.
Mais même ça, au début, bah, ça n'a pas été difficile. Mais c'est vrai qu'il faut l'accepter. On en a beaucoup parlé entre nous. On peut aussi en parler avec la diète. Et... Tant qu'il n'y a pas de tabou, c'est ça qui est.
Pas hésiter à aller en parler à une psy. À l'INSEP, on a des psys qui sont à disposition si jamais on sent que ça ne va vraiment pas. Ou même, il y a des fois des filles où on voyait que ça n'allait pas et on a été voir des personnes pour se faire aider. Parce que c'est important de ne pas laisser quelque chose se gangréner. Et, bah, en tant qu'amie, coéquipière, c'est important, même dans d'autres sports, on le voyait aussi, de dire attention, là, je pense que. Ton attitude n'est pas saine pour toi. Pense à toi.
Mais d'ailleurs, en allant même plus loin, en fait, est-ce que vous avez le choix ? Alors là, je vais, par exemple, les poils. Ça, c'est un truc. Pareil, je me pose la question. Est-ce que vous avez le droit, si vous avez envie de garder vos poils, par exemple, de les garder ?
Oui. Ben, on n'a jamais eu de remarques. Après, quand on nage dans l'eau, on est un peu loin, donc honnêtement, on les voit pas trop. Mmh. Et puis après, même fun fact, on n'est pas obligé, mais pour sentir les hauteurs de l'eau, c'est bien d'avoir des poils.
Okay.
Parce que quand tu viens de t'épiler, tu sens pas tes hauteurs. Tu peux pas être bien calé exactement à la hauteur demandée. Enfin, c'est plus dur.
Ah, c'est incroyable ça.
Ouais.
Ah, tu vois, je m'imaginais.
Ouais, on s'épile pas, on se rase pas la veille de la compète, sinon on peut ne pas sentir l'eau.
Même moi, je le fais pas une semaine avant, c'est limite trop tard, quoi.
Ok. Ouais, bah, c'est vrai que cette question-là, et alors, surtout ce qui est physique, des tatouages par exemple. Si un jour vous avez envie de vous faire un tatouage sur la cuisse ou sur le bras, c'est quelque chose qui est possible.
Ça, c'est une très bonne question.
Ça, avant, c'était pas autorisé. Mais depuis l'entrée des hommes dans les compétitions, etc., il y en avait qui étaient beaucoup tatoués, donc ils ont accepté les tatouages pour éviter de tous les recouvrir. C'était un peu.
Ouais, il y avait des dos entiers à couvrir, enfin, c'est impossible.
Et du coup, ça a été aussi accepté pour les femmes. Mais c'est vrai que dans les équipes, par exemple, des tatouages qui peuvent se voir, par exemple, sur les bras ou sur les jambes, nous, on préfère cacher dans le sens où, comme ça fait plus uniforme.
Ouais, toujours le côté.
Uniforme, quoi. Mais c'est vrai que dans l'équipe, on n'a pas de filles avec des gros tatouages ou quoi. Donc la question ne se vient pas. Après,
c'est autorisé, mais ce n'est pas conseillé, quoi.
Non,
bah, c'est, on revient à tout à l'heure avec la taille, la couleur de peau. C'est que si on voit d'un coup quelque chose d'énorme, et puis même encore plus avec le nouveau règlement, si ils matent qu'il y a un tatouage sur. Un tibia ou quelque chose comme ça et qui voit que le tatouage n'est pas arrivé pile au bon endroit, bah, ça peut être encore plus dangereux. Mais après, bon, c'est le corps. Voilà.
Après, c'est une question de plus pratique. On n'a pas assez de temps dans l'année pour faire un tatouage qui cicatrise bien et qu'on tourne parce qu'elle trempait dans l'eau 8 heures par jour avec son nouveau tatouage. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Non, mais qu'on se le dise. Hein. Il y a aussi ça. Hein.
Les oreilles, pour j'allais percer les oreilles.
Vous avez les oreilles percées.
Ouais. Mais l'été, on fait ça l'été. Et encore, on a la chance, c'est pas dans le cartilage, sinon on l'aurait pas fait. Hein.
C'est vrai que c'est bête.
Non, mais c'est des spécificités
qui sont vraiment propres à votre sport, en
mais
fait.
Bien sûr, mais c'est des trucs bêtes. Mais comme tout, quand on est sportif de haut niveau, par exemple, des concerts, on prend pas des places de concert un an à l'avance. C'est bête, mais on sait pas ce qui se passe avant. Enfin, du coup, c'est des trucs un peu bêtes, on se rend pas compte, mais qu'on peut pas forcément prévoir avant. Donc nous, on prévoyait, si on a envie de se faire percer, bah, c'est l'été, pendant les vacances d'été.
Il y a eu d'autres situations absurdes comme ça, liées à votre sport, que vous avez dû gérer.
Peut-être, hein.
Sûrement, mais après, on ne s'en rend plus compte. En fait, on est tellement dedans.
C'est votre quotidien. Donc,
oui, c'est ça.
Je n'aime pas, après qu'on trouve une anecdote.
Bah,
mais...
C'est quand on nous propose des trucs 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance. Bon, fait, bah, je suis désolée, je ne peux pas. Enfin, je ne sais pas où je serai dans 1 an. Quoi.
Ça, c'est une galère hein, pour les gens, pour les cadeaux, généralement, les trucs comme ça. Par exemple, là, nos copines nous ont offert un cours de poterie.
Ouais.
Mais elles n'ont pas pris le cours. Elles nous ont dit, vous verrez quand vous aurez votre planning. Parce que c'est impossible. Vous nous le dites un peu à l'avance, on vous le réserve. Mais là, on ne peut pas vous le prendre pour vous. C'est impossible.
Vous avez 1 an pour, pour pouvoir faire votre poterie. Et tout à l'heure, tu as dit les mecs, les filles et les mecs. Parce que depuis pas si longtemps
2015.
Que ça, au final, les hommes peuvent aussi concourir en compétition avec les femmes, c'est pas des catégories forcément dissociées.
Alors, ça, c'est depuis cette année.
Sauf pour les solos, je crois.
C'est ça, pour les solos, depuis l'année dernière, ils ont une catégorie à part. Il y a aussi une catégorie à part qui est le duo mix, donc un homme et une femme. Mm-hmm. Et
alors, ensuite, le duo mix, c'est depuis 2015, le solo depuis l'année dernière.
Ouais, et les équipes, ils peuvent être dedans depuis cette année.
Oui, c'est ça, parce que j'ai vu que sur les jeux, ils pourront concourir. Ouais.
Mais c'est vrai, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'ils soient là sur toutes les épreuves, donc aussi sur l'épreuve technique, où là, pour le coup, c'est vraiment des éléments avec les jambes. Donc, il faut avoir des hommes qui soient au niveau technique des femmes et où leurs jambes soient aussi similaires que les femmes. Comme ça, ça ne fait pas le même sujet qu'on venait tout à l'heure, pour que ce soit vraiment une homogénéité, etc.
Après, moi, ça, je suis trop contente que notre sport il évolue, mais j'étais un peu perturbée dans le sens où ça n'a pas été très bien réglementé.
Ouais.
Enfin, on ne sait pas le nombre d'hommes autorisés, on ne sait pas. Enfin, je veux dire, il y a 8 filles qui sont en compétition contre 6 filles et 2 mecs. Enfin.
Je crois, j'ai lu en tout cas un article là, juste avant que vous arriviez où il disait que il ne pouvait pas y avoir plus de 2 hommes par équipe.
Mmh. Ouais.
C'était maximum 2 hommes par équipe.
En fait, le truc, c'est que pour l'instant, déjà, vu que c'est quand même assez récent, il n'y a pas d'hommes au niveau... beaucoup d'hommes, en tout cas, au niveau pour l'instant. Donc, la question ne se pose pas forcément.
Ça arrive, cette génération-là arrive. On voit des petits gars s'inscrire au club. Et ça, c'est trop bien. Franchement, le fait que notre sport commence un peu à évoluer, c'est chouette. Mais encore une fois, je trouve que dans le règlement... Enfin, moi, ça m'a perturbée dans le sens où... J'étais « Ah, c'est trop cool !» Mais du coup, ça se passe comment? Et là, tu fais « Ah, bon, c'est pas trop, d'accord, bon, allez, freestyle, encore une fois, adaptation !»
Mais c'est vrai que c'est cool que ça évolue. En plus, nous, c'est vraiment l'opposé de la majorité des sports, où c'est souvent en plus les hommes.
C'est un sport féminin, entre guillemets, et qui n'est pas... où on n'accepte pas, encore une fois, j'utilise les termes, les garçons. Mais d'ailleurs, en France, on a un représentant, Quentin. Rakoto Malala, qui a fait des médailles aussi sur...
Une petite pépite.
Ouais,
c'est un petit cœur.
Et c'est génial. Et c'est vrai que j'ai presque l'impression que finalement, on n'en parle pas trop.
Non, un peu, depuis ces médailles européennes, un peu. Mais sinon, c'est vrai que déjà de base, la natation artistique, on n'en parle pas trop.
C'est ce que j'allais dire.
On en parle un peu avec les hommes, etc. Mais quoi que ça vise à bouger un peu. Donc ça, c'est cool. Même on en parle déjà sur nos réseaux. Et c'est vrai que maintenant, on peut déjà parler de soi un peu plus facilement que, par exemple, il y a 10 ans. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus aussi accessibles et regardés. Donc c'est cool, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup.
Est-ce que ça a pu être frustrant, même, qu'on parle de la natation synchro et la natation artistique par le biais des hommes?
Non, moi je trouve que déjà on en parle de la synchro, donc c'est mieux que rien. Et après c'est vrai que c'est un sport qui est féminin, donc on parle quand même de des femmes dans ce sport-là. Donc en soi,
moi j'étais trop contente de voir qu'il y avait 2 films qui sortaient sur la synchro. C'est vraiment trop chouette. Et puis ça rentre un peu dans la pop culture et c'est bien c'est marrant de voir comment les gens voit un petit peu la synchro, donc non, moi j'ai vraiment bien aimé.
Et paradoxalement, c'est vrai que la natation synchro continue d'être un sport qui malheureusement est victime de beaucoup aussi de sexisme. Je repense à l'affaire l'année dernière, par exemple, de votre photo qui a été postée sur Facebook où il y a eu juste un déferlement de commentaires sexistes horribles.
Mais ça, c'est surtout sur Facebook, hein.
Ah ouais.
Parce que j'ai l'impression que c'est tous les vieux dégueulasses, nous on les appelle. Non mais c'est vrai. Moi j'ai l'impression que c'est tous les vieux dégueulasses.
C'est que malheureusement sur Facebook on a accès au profil et quand on voit que ça pourrait être.
Mais sur Instagram on n'a pas ce genre de commentaires.
Enfin c'est choquant.
On n'a pas ce genre de commentaires sur Instagram parce que du coup avec Charlotte on fait partie de celles de l'équipe qui tiennent le compte de l'équipe. C'est tenu par les nageuses. Et on n'a pas ce problème-là.
Même les
sur
messages,
Insta.
On n'a pas ça. Mais...
C'est vraiment sur Facebook où on a l'impression que c'est toute une génération qui se donne le droit de commenter des trucs comme ça. Enfin,
le corps des femmes.
Puis surtout, moi, ce que je trouve chaud, c'est qu'ils ont l'âge d'être parents. Donc, ils ont sûrement des enfants. Donc, ils ont éduqué leurs enfants comme ça. J'espère que les enfants n'ont pas écouté tout ça. Ne suivront pas le triste chemin de leur père, du coup.
En fait, c'est malheureux de voir que... après, c'est un problème général de société, la sexualisation du corps de la femme.
Ouais.
Et surtout que nous, de manière toute innocente, on voulait juste tenir un peu informé, en sachant qu'en plus, en compétition, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper des réseaux parce que ça va très vite. Et puis, on a envie aussi de se concentrer sur la compète. Et on se dit, on va faire une petite photo pour dire que l'entraînement s'est bien passé. Et on nageait dehors, donc on était en 2 pièces.
Ouais, ouais.
Et comme on est beaucoup, on s'accroupit un peu, on se met debout. Enfin,
oui, pour que tout le monde soit visible sur la photo.
Voilà, c'est ça,
il n'y a rien de provoquant, il n'y a rien.
Pas une pause.
Et puis,
quand bien même, on a envie de taper une pause. On fait ce qu'on veut. Et mais vraiment, je ne m'y attendais pas. Et quand on nous a envoyé les commentaires quand on était en compète, on a dit non, on ne veut pas les voir, on s'en occupera en rentrant.
Ouais, ouais.
Parce que vraiment,
pour vous préserver et pas dépenser l'énergie inutilement sur des choses.
C'est ça.
Vous avez le sentiment quand même que ce soit la vision des gens globalement sur votre sport a évolué, qu'il y a eu un changement?
C'est en cours. Encore des gens qui voient de la synchro qui disent « Ah ouais, je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça
».
Même les entraînements, quand on leur raconte un peu notre quotidien, « Ah ouais, je ne pensais pas que ça demandait autant d'investissement. »
Souvent, quand il y a des journalistes qui viennent à l'entraînement ou qui nous découvrent un peu et qui ne connaissent pas trop la synchro, c'est souvent des gens qui connaissent pas grand-chose et qui repartent super contents et qui nous disent bah, « je pensais pas que c'était aussi dur, je pensais pas que ça représentait tout ça, maintenant je vais vous suivre, etc. » Donc souvent, quand les personnes se rendent compte de ce qui est vraiment notre sport, bah, c'est souvent des personnes qui nous suivent après derrière. Après, d'un côté, c'est ce que je dis, c'est que quand les gens ont l'impression que c'est facile, que c'est pas un sport hyper difficile, etc., bah, c'est que nous, on a rempli notre taf d'un côté, ouais. C'est qu'on a rendu notre performance jolie à voir, facile à voir, etc. Donc d'un côté, c'est que nous, on a réussi notre partie du boulot. Mais d'un autre côté, c'est important et c'est ce qu'on essaie de faire sur nos différents réseaux sociaux et même au travers différents médias, c'est de montrer un peu l'envers du décor. C'est que bah, c'est pas des paillettes, quoi, la synchro, au contraire. Notre quotidien, c'est plutôt...
Vous montrez des paillettes, mais que tout ce qu'il y a derrière...
Ouais. Mais c'est trop bien à chaque fois d'échanger sur notre quotidien, notre sport. On adore quand on nous pose des questions, partager. C'est trop bien.
Comment faire pour visibiliser encore plus votre sport, pour que les gens s'y intéressent encore plus? On en a, on va dire, entendu parler à l'époque peut-être de Virginie Dedieu qui avait fait des médailles, dont une médaille olympique, enfin une troisième place olympique et plusieurs fois championne du monde. Et on a eu la sensation un tout petit peu qu'il y a eu à un moment donné un creux, le creux de la vague, et que ça revient aussi petit à petit, mais plutôt doucement.
Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu les réseaux qui relancent un peu le truc. Après, je sais pas trop comment on pourrait...
Dans tous les cas, nous, le max qu'on puisse faire, c'est d'être actifs sur les réseaux.
Ouais.
Après, ça nous demande du temps. En plus, bah, comme tu disais tout à l'heure, de notre double projet. Donc, on a la synchro, les études et les réseaux, mine de rien, ça prend un petit peu de temps aussi à faire si on veut faire un contenu quali. Et je pense que d'abord, il faut qu'on fasse plus de contenu peut-être sur le compte de l'équipe pour arriver un peu à médiatiser nous-mêmes, montrer un peu notre vision de notre quotidien et de notre sport. Après, papoter comme ça autour d'un micro.
Mais c'est vrai, je pense que c'est bête, hein, mais après, j'ai la sensation, là je parle personnellement, mais en tout cas qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui donnent la parole aussi à des sports moins médiatisés, qui ont moins de visibilité et qui permettent de les faire émerger un petit peu plus. Après, forcément, le grand public sera pas forcément touché à partir du moment où ça passe pas sur le service public. Hein.
Ouais.
Mais bon, en tout cas, que les choses évoluent et en tout cas qu'il y a une prise en compte un peu plus sérieuse presque des plus petits sports, on va dire.
Mais je pense que la synchro, c'est un sport que les gens suivent moins. Par exemple, notre médaille aux Jeux européens, notre titre de championne d'Europe, c'est un truc historique. Franchement, on s'y attendait pas. Nous, c'était incroyable. Et il n'y a pas eu de médaille d'or depuis très, très, très longtemps. Je crois que de mémoire, ça doit être 1980 ou quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Donc, 90, c'est vraiment quelque chose.
10 dans les années.
C'est ça. Donc, ça remonte. Et c'était incroyable. Enfin, vraiment, c'est historique ce qu'on a fait là-bas. Et c'est vrai que, mine de rien, on n'en a pas tant parlé que ça. Mmh. Et puis, même, par exemple, nous, c'était notre famille qui était en France, notre petit frère qui a dit bon, je vais chercher l'équipe et tout pour regarder et tout. Et en fait, finalement, on n'était même pas dans les trucs des Jeux européens.
D'accord.
Donc, tu vois, je trouve que c'est juste que ça représente un peu que la synchro, ça ne fait pas partie des sports qui sont forcément mis en avant et on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui est mis derrière. Au quotidien et les performances, même par exemple vos médailles l'année dernière, vos médailles européennes, c'était incroyable aussi, quoi. C'était historique.
Ouais, c'est historique.
Et on n'en a pas tant parlé que ça non plus.
Après, mais ça évolue plein de sports aussi, à l'approche des Jeux, il y a de plus en plus de journalistes qui s'intéressent au sport un petit peu comme ça.
Les sports olympiques.
Ouais, c'est ça, les sports olympiques, ils sont, j'allais dire, oubliés, c'est parce que généralement dans les reportages, c'est ce qu'ils disent un petit peu, mais les sports un peu moins connus. Et c'est bien parce que ça apporte de la visibilité et c'est trop chouette. Après. Ça suit son cours, je pense.
Oui.
Vous avez jamais été frustrée de ça?
Non.
Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est quand j'entends, par exemple, j'écoutais la radio, à un moment, j'entends l'actualité sportive, le foot et le rugby. À la limite, le rugby. Et vraiment, le foot, on n'entend que les trucs un peu régionaux, les clubs et tout. Alors que moi, j'avais ma copine qui venait de faire championne du monde, on n'entend pas parler. Et du coup, c'est frustrant parce qu'au final, j'ai l'impression que le sport en France se résume à deux ou trois sports. Alors qu'au final, il y en a plein, et même encore pire, nous, on s'en sort bien, les sports handisports.
Ouais.
C'est mais pire que tout, ils font des médailles mondiales, des médailles européennes, on n'entend pas parler. Et même nous, en tant que sportifs, des fois, on n'accède pas à ces informations-là.
Non, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes de visibilité, et ça, de toute façon, ce sera, je vais dire un truc horrible, mais ce sera toujours le cas, malheureusement, je pense. parce que bon là c'est des discussions qu'on aura en off après, mais c'est vrai, non mais c'est vrai, après c'est des questions d'argent, c'est des questions de plein de choses qui font que y a des sports qui sont mis en avant, qui sont diffusés, qui sont rentables, et des sports qui le sont pas,
et parce qu'ils sont aussi beaucoup plus regardés. Le foot, moi je me souviens de la finale en 2018, c'était incroyable, on avait été dans Paris pour la regarder avec des amis. Ce que ça a rapporté, c'est incroyable. Et c'est ce que je trouve beau aussi dans le sport, c'est que ça rassemble énormément de personnes de toute culture, de tout pays, de tout le monde. Enfin, ça rassemble beaucoup de monde autour d'une même voix, entre guillemets. Enfin, tout le monde vibrait en même temps. Et justement, genre, je trouvais ça trop bien. Mais d'un côté, je me suis dit, purée, c'est trop dommage que ce genre de rassemblement se fasse vraiment que pour le foot. Il y a vraiment d'autres sports où, par exemple, j'avais été voir à Paris le judo à Bercy. Bah, quand ça gagnait, il y a des frissons, quoi, parce que tout le monde crie en même temps. Enfin, c'est incroyable. Le sport, ça ramène des émotions. Et du coup, je trouve ça trop dommage que certains sports vivent pas ça, et que certaines personnes puissent pas vivre ça avec certains sports, etc. Mais ouais, je trouve que le sport, quand même, c'est quand même un milieu où ça rassemble énormément. Et c'est beau. Enfin, franchement, quand on est dans un stade ou quand on est dans des endroits, tout le monde crie la victoire en même temps. Enfin, ça donne des frissons. C'est, ça fait ressentir des émotions qu'on a nulle part ailleurs, mine de rien.
C'est clair, ouais, complètement. Vous entendez le public d'ailleurs quand vous êtes
Un peu. Ça dépend. Un peu. Beaucoup quand on arrive, parce que c'est le moment le plus stressant, hein. Clairement, avant d'aller dans l'eau, c'est limite tu te dis mais je me barre en courant, quoi, c'est pas possible.
Elle est où la porte, s'il vous plaît.
C'est ça, c'est là où tu remets tout en question. Enfin, vraiment, c'est le moment le plus stressant. Et là, t'entends les gens crier. Souvent, nous, on a nos familles qui sont là. Ou,
on reconnaît leur voix.
Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très. Ça amène beaucoup d'émotions.
Et quand on a genre en France le public, quand il y a la foule qui crie,
ça me fait chialer.
Mais il y a les larmes aux yeux et
je peux pas pleurer, je vais nager là.
Ça se voit pas, c'est pas grave.
Et surtout qu'après, du coup,
avec le pince-nez.
Ouais, c'est ça, avec le pince-nez, genre, ça t'amène de la mort. Enfin, on dirait, c'est pas sexy, mais tu peux pas. En fait, sinon, tu te noies avec
tu te noies toi-même dans toi
avant même d'aller dans l'eau. C'est pas possible, tu peux pas. T'es obligé de te
problèmes techniques.
T'es obligée de te retenir.
C'est génial. Mon Dieu, le contrôle des émotions.
Oui, c'est ça.
Ça,
c'est un... Ça galvanise. Faut vraiment le prendre dans ce sens-là, parce que si tu te fais inhiber par les encouragements, ça va être trop dur. Mais c'est vrai que des fois, quand on nage, on entend.
Mais c'est rare. Souvent, on est quand même concentré.
Mais c'est vrai que des fois, on entend. Surtout qu'il y a des moments qui sont vraiment plus durs que d'autres, où il faut relancer. Et souvent, c'est dans ces moments-là où on entend, parce que vraiment, c'est là où on va chercher... la force en dehors.
Ouais. Du coup, vous l'avez dit, c'est votre dernière année. Ouais. Vous arrêtez après Paris 2024. Est-ce que vous avez le sentiment un peu quand même d'une sorte de libération?
Ouais.
Franchement, un peu, ouais. Parce que, mine de rien, le sport de niveau, c'est génial, mais il y a aussi plein de contraintes. Par exemple, nous, on fait un sport co, donc notre planning est lié avec 13 autres filles aussi à l'INSEP. C'est pas nous qui choisissons nos week-ends, c'est pas nous qui choisissons notre planning... Donc, c'est vrai que après pouvoir s'organiser comme on veut et en fonction de soi-même, ça va faire du bien. Mais après, on fait du sport de haut niveau et on accepte les contraintes qui sont liées, tout comme dans la vie normale, entre guillemets, il y a des contraintes également. Mais c'est une autre chose qui nous attend.
C'est notre fin de carrière. On l'a prévu depuis longtemps parce qu'avec nos études, on prévoit souvent longtemps à l'avance. Mais on sait ce qui nous attend aussi derrière. Et c'est vrai que moi, souvent, je dis que le sport de niveau, ça éclabousse un peu autour. Il y a aussi nos familles, nos copains qui subissent aussi notre rythme de vie. Donc, je pense que ce sera aussi une libération pour eux. Mais c'est vrai que là, on sait qu'on est en fin de carrière, donc on profite des derniers instants. On sait qu'on va profiter de cette année, etc. Mais on est aussi contente de notre vraie vie qui arrive après. Nous, souvent, la vie après le sport, on dit que c'est la vraie vie. Donc, on a aussi hâte d'entrer dans ce monde-là, de vivre tout ça, de terminer enfin nos études supérieures. Parce que mine de rien, ça fait un moment qu'on y est. Mais on a aussi hâte de pouvoir... des trucs bêtes, hein. Par exemple, on a des copines qui habitent dans le sud, se dire, et même notre mamie aussi qui habite dans le sud, se dire, vas-y, ce week-end, je descends, je viens te voir, alors que maintenant, c'est pas forcément possible ou c'est un peu compliqué à organiser. C'est des petits trucs comme ça où, quand on est dedans et quand on est plus jeune, je pense qu'on se rend pas forcément compte, et quand on est plus vers la fin de carrière, on a plus hâte de ces petites choses. Mais ça veut pas dire que cette année, on n'en profite pas et que justement, c'est important de profiter de ces derniers instants, la dernière reprise, les dernières compétitions, etc.
Et d'un point de vue, du coup, purement sportif, est-ce que la natation synchro va vous manquer?
Je pense pas dans un premier temps.
Non, ouais. Parce qu'on en fait tellement au final que je pense de plus en faire après, on va se dire... On va peut-être souffler un coup. Et on a un projet en dehors de la synchro. Enfin, moi, j'ai envie de faire du saut en parachute.
Ah,
j'ai ce projet-là de me lancer pas dans la compète hein, du tout. Hein. Mais je sais pas, j'ai vu mes parents faire ça, j'ai vu mon frère faire ça et j'ai trop envie d'essayer.
Génial.
Ouais, mais plein d'autres projets, même que ce soit au niveau des cours.
Non, mais au niveau sportif.
Ah oui, au niveau sportif. Moi, j'ai envie d'essayer plein de sports. Faire des cours de danse, faire de la boxe, comme tu as dit tout à l'heure. Vraiment, il y a plein de trucs que j'ai envie d'essayer. Plus, je pense qu'il y aura une pause sport pendant un certain temps. Surtout après les Jeux et après l'année olympique, ça risque d'être très dense, très intense. Ouais. Et après, bah forcément, un sportif de niveau, ça ne s'oublie pas. Hein. On a besoin de se dépenser, on a besoin de se défouler. On a pu le voir avec nos amis qui ont arrêté. Mmh. Donc, je pense plus tester plein de sports. Le parachutisme aussi, évidemment. Mais plein de sports, ça doit être trop bien.
Dans le monde des moldus, comme c'est vous disiez tout à l'heure en off. Vous arrêtez de
Mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est vraiment, je sais pas, entre plein de sportifs. Enfin, moi, j'ai une amie judokate. Pareil, ce week-end, on en parlait de l'après-carrière.
On parlait des moldus.
Mais c'est pas du tout péjoratif. Hein.
C'est vraiment vrai que c'est un autre monde. En fait, nous, on est tellement dans notre monde à nous. C'est hyper fermé, en fait, le sport de niveau. C'est aussi pour ça que j'ai créé Entre Sportifs en parlant avec des personnes qui font pas de sport, donc avec des moldus. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était hyper fermé et qu'on se rendait pas du tout compte de ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est une autre vie, hein, carrément, entre être sportif de niveau et avoir un travail, faire les études à temps plein. C'est complètement autre chose, c'est différent.
Mmh, c'est clair. Bon, pour clôturer ce podcast,
ouais.
Parce que là, on papote déjà depuis plus d'une heure, une heure et quart.
On est très pipettes.
On est pipettes, c'est un enfer.
C'est parfait, c'est
le
génial.
Le nom du bulletin où il est marqué pipette dessus.
J'adore, moi c'est parfait. En même temps, pour faire du podcast, il vaut mieux aimer parler parce que sinon
ouais. C'est compliqué.
Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous ne dites rien devant le micro, si vous voulez, bon moi je ne sers à rien. Dernière question que vous connaissez parce que vous écoutez le podcast, oui. Donc vous savez. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition de ce qu'est une championne ?
Pour moi, une championne, c'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend. Que ce soit à tous les niveaux, dans sa vie perso, dans la vie sportive, etc. C'est pas forcément avoir une médaille autour du cou, mais accomplir ses objectifs, qu'ils soient plus petits ou plus gros. Et y a des championnes, on peut dire, du quotidien. Par exemple, je pense qu'on pense toutes majoritairement à nos mamans qui font énormément. Moi, je trouve que notre maman, par exemple, c'est une grande championne. Oui. Déjà, élever des jumeaux.
Force.
Ouais, vraiment force. Ouais.
Mais je trouve que championne, ça a beaucoup de caractéristiques, mais je pense surtout réussir ce qu'on entreprend. Ouais.
Pour moi, une championne, c'est une battante. Ça te rejoint. Enfin, c'est avoir des objectifs, se battre pour y arriver. Et puis, des fois, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave, faut s'adapter. Et c'est pas baisser les bras et vraiment. Vraiment être une battante, pour moi c'est ça.
Trop bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce moment.
Merci à toi.
Toujours agréable de vous voir et merci aussi pour votre franchise. Et c'est pareil, c'est toujours aussi très agréable. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une année olympique géniale, pleine de bonheur et puis un beau résultat au
on
jeu.
On l'espère.
Oui, merci.
Et puis une suite tout est si belle. Voire plus belle ou différente quoi.
Merci.
Voilà. Merci beaucoup les filles, à très bientôt.
Merci à
très
toi. Vite.
Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.